Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef. Et on se retrouve dans un nouveau Qu'est-ce qui se passe ce week-end, en ce vendredi 12 avril. Je suis toujours avec Charles qui m'accompagne cette semaine. Bonjour à toi.
Salut Lucie, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va.
On retrouvera Augustin dès lundi, mais il a travaillé dans l'ombre cette semaine parce qu'il nous a préparé un nouvel In Extremis qu'il a monté dans la semaine. Je remercie d'ailleurs pour ce travail, parce qu'en plus du travail qu'il a à faire, ça devait pas être une mince affaire. Et dans In Extremis cette semaine, comme la semaine dernière, on est avec Sortir du nucléaire 41, car une émission ça suffisait pas clairement à faire le tour du sujet. Deux émissions ça suffit pas non plus à faire le tour du sujet, mais on fait ce qu'on peut, on a essayé de faire au mieux possible. Comme d'habitude, toutes les infos sont à retrouver sur studiozef.fr dans l'article du jour. Et on va pas perdre plus de temps parce qu'on va passer aux infos culturelles du week-end. Et on va commencer par du cinéma.
Avec une ciné-rencontre ce dimanche 14 avril au Lobis, en partenariat avec la Maison de Bégon. Ça commence dès 16h avec un goûter proposé par les habitants adhérents de la Maison de Bégon. Puis à 17h, la projection en avant-première du film La Miséricorde de la jungle de Joël Karekezi, que vous pourrez rencontrer à l'issue de la projection. Le film se déroule en 1998 dans la jungle de Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, deux soldats que tout oppose, une jeune recrue congolaise et un héros de guerre rwandais, se retrouvent isolés et sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense et la plus hostile du continent. Un road movie à pied, à travers un territoire ravagé par la violence, montre leur errance et la façon dont ils se retrouvent confrontés à leurs propres démons. C'est ce dimanche 14 avril au Lobis à partir de 16h. Et toujours au Lobis.
Ce vendredi 12 avril, l'association Roxette s'associe au Lobis pour un ciné-club dédié à Eric Clapton. Ça commence à 20h avec un concert du groupe Moon River Blues, qui aborderont pour la soirée un répertoire blues en hommage à Eric Clapton, une musique à l'origine de bien d'autres genres qui saura vous captiver par son rythme et son feeling. Puis à 21h se déroule la projection du documentaire musical Eric Clapton 12 Live in Bars de Lily Finney-Zanouk, un documentaire qui mêle archives personnelles, performances rares et témoignages inédits de légendes telles que B.B. King ou Bob Dylan. Bref, une soirée blues rock en perspective, c'est vendredi soir au Lobis. Et on continue avec de la musique.
Ce samedi à 20h, à la salle des fêtes de Fontaine-les-Coteaux, vous pourrez assister à une représentation du cabaret gymnopédique. Une pièce qui s'adresse à tous, tout particulièrement si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Eric Satie, compositeur et pianiste français de génie, reconnu comme précurseur de plusieurs mouvements comme le surréalisme ou le théâtre de l'absurde. Et oui, on parle de l'homme le plus versatile du monde, dont tout le monde connaît de près ou de loin une de ses musiques. Sur scène, les comédiens font vivre de nouveau ce musicien loufoque et plein de fantaisie. À travers ses musiques et ses textes, se révèle peu à peu l'esprit Satie. À découvrir samedi à 20h à la salle des fêtes de Fontaine-les-Coteaux. On reste dans la musique et surtout dans la chorégraphie.
L'association de danse contemporaine à destination des seniors et des migrants, La Mécanique du Bonheur, propose vendredi et samedi deux représentations de leur spectacle chorégraphique. Nous sommes le monde, qui s'appelle Nous sommes le monde, un spectacle chorégraphié et mis en scène par Simon Choplin avec une création musicale de Johan Le Tourneux. Un spectacle pour partager nos différences et exposer nos ressemblances. Une invitation à agir ensemble, à se côtoyer et à échanger. C'est ce vendredi 12 avril à 19h et samedi à 20h au théâtre Nicolas Pesquine à Blois. Et pour les enfants pendant les vacances.
Le domaine de Chaumont-sur-Loire organise des ateliers pour les enfants durant toutes les vacances de printemps. Dès maintenant jusqu'à la rentrée, deux ateliers de création sont proposés aux enfants, tous les après-midi de 14h30 à 17h30 dans la salle pédagogique de l'Asinerie. Pour les enfants de 5 à 9 ans, un animateur accompagnera la confection d'un mobile végétal aux couleurs du printemps. Et pour les plus grands, de 10 à 13 ans, une manipulation plus complexe permettra la réalisation d'un attrape-rêve. Les matériaux utilisés seront naturels et collectés sur le site, comme des plumes, des perles, épices, laine ou raffia. Chaque atelier dure 20 minutes. C'est donc au domaine de Chaumont-sur-Loire pendant toutes les vacances scolaires. Et pour finir, on revient à Blois.
Le quartier Coty organise un vide-grenier. Un bon moyen pour faire des achats pas chers et trouver quelques perles rares. Un lieu aussi de rencontre et de solidarité entre les habitants. Les excédents seront reversés pour aider des jeunes du quartier à financer des projets de voyage ou de sortie. Le vide-grenier se déroule de 8 à 18 heures rue Pierre et Marie Curie à Blois et c'est dimanche.
On passe à la musique ?
Ouais.
Avec mon petit choix personnel du jour, j'en profite, hein, je ne suis pas souvent à la radio, donc je me fais plaisir. Et là, on va passer un morceau d'un rappeur brésilien qui s'appelle Marcelo D2. Alors, je le prononce à la française, hein, ouais. Mais voilà. Vous aurez compris qu'il faut le dire en portugais, normalement. Et le morceau s'appelle Alto da Colina. Voilà.
Ok, on écoute ça.
O tempo tá fechando, então toca a sirene. Não mandaram educação, só mandaram a PM. Se continuar assim, amigo, a gente vai pra cima. Fecha a porta, acende a vela, lá no alto da colina.
You know what I mean? Can you hear me?
Yeah.
Let's go.
Reza, porra!
Tá fechando, então toca a sirene. Não mandaram educação, só mandaram o APM. Se continuar ruim pra gente, a gente vai pra cima. Fecha a porta, acende a vela, lá no alto da colina. Cê pensa que sabe o que é guerra, não, cê ainda não viu nada. Me botaram aqui na terra, na parte aonde os cana mata. Dizem que é bala perdida, mas não param de atirar. Trazem armas, seus coletes e licença pra matar. Então, vê só, um monte de gente morta. Não era um usuário, é tal guerra contra as drogas. Sociedade vira as costas, os bacanas se no cheque. Pra mais polícia corrupta e a arma na mão dos moleques. Não que isso te interesse, a mãe sai pra trabalhar e pede que eu só suas preces. Vagabundo senta o dedo, polícia senta o dedo. Seja forte, aguenta aí da morte, não pode ter medo. Porque é hora de lutar, quer morrer ou quer matar. Se não aguenta, não se envolve, é lei no cano do revólver. Combinado não sai caro, cada um tem o seu corre. Então, tempo tá fechando, então toca a sirene. Não mandaram educação, só mandaram o APM. Se continuar ruim pra gente, a gente vai pra cima. Fecha a porta, acende a vela, lá no alto da colina.
Filho da puta, se vergonha, tá tudo. Homem, tem que sou iniciando que tá por conta do caralho. Vê se desculpa, eu vou ter que tomar, tô pelo zaralho. Vai ser por passar, meu boi, depois me conta como foi.
Tempo tá fechando, então toca a sirene. Não mandaram educação, só mandaram o APM. Se continuar ruim pra gente, a gente vai pra cima. Fecha a porta, acende a vela lá no alto da colina.
Minhas falhas são seu sucesso, mas eu caio bola pra frente. Já falamos, nossa vitória não será por acidente. Tudo verso tem seu reverso, um joga nas mãos de Deus. Mas a lei do universo vale até para os ateus. Querendo lugar no céu, dançando com o diabo na terra. Sei que é mais arte no amor do que arte na guerra. Entre malandros, boêmios, traficantes e maloqueiros. Que cresceu sozinho, é difícil se livrar dos medos. Será que é assim que vamos seguir? Cada um com suas dores. Correndo atrás de dinheiro, esquecendo dos valores. Eu tô indo buscar meu lugar lá no futuro então. Mas ainda tenho o sangue dos meus amigos em minhas mãos. Eles querem poder e continuam comprando votos. A gente só pensa em sobreviver e continuamos contando corpos. Do lugar de onde eu vim tá tudo fora do lugar. E a única certeza que eu tenho é que isso nunca vai mudar.
Lá no alto da colina.
Qu'est-ce qui se passe?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef. Alors c'était Marcelo D2 avec le titre Alto da Colina et c'était grave cool. Enfin moi je pense que je vais écouter l'album parce que ça m'a bien plu. Alors on va passer maintenant à l'in extremis de la semaine. Je vous rappelle le thème du mois d'avril, on parle d'énergie et d'environnement. Donc avec Sortir du nucléaire 41, on vous laisse écouter. In extremis. mettons les choses au vert.
Rentrer plus dans le détail sur ce qui est rejeté dans la loi.
Mais oui, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression, enfin, je sais que moi j'avais dans la tête que ce qui était rejeté, c'était des choses propres, en fait. Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis toujours.
C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on veut nous faire entendre. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'on a plein de produits, je me répète, chimiques d'une part, non radioactifs, mais aussi de produits radioactifs. Et on a aussi, et ça c'est une chose extrêmement grave, des émetteurs alpha, qui sont relativement difficiles à mesurer. Et les émetteurs alpha sont graves en ce sens qu'ils sont issus du plutonium et de l'américium. Donc, c'est des produits, des radionucléides à vie longue et très longue, puisque la demi-vie du plutonium, c'est 24 000 ans. Hein. Et okay. Le problème de ces particules alpha, c'est que si elles sont ingérées, inhalées ou ingérées, elles restent dans l'organisme et continuent à faire leurs dégâts au sein de l'organisme.
Elles ne sont jamais évacuées.
Ils sont jamais évacués okay. ou extrêmement difficilement. Alors que, curieusement, si simplement sur la peau, la peau les arrête, quoi. Mais par D'accord. contre, en inhalation ou en ingestion, elles peuvent avoir des conséquences très graves. Bon, voilà, je ne m'étends pas plus sur ce premier type de danger qu'on peut appeler les dangers au quotidien. Les dangers liés au transport. Bon, je vais essayer d'aller vite. Il faut savoir qu'on a selon les sources, on a chaque année entre 300 000 colis radioactifs et 900 000, alors selon les chiffres, hein, 300 000 à 900 000 colis radioactifs qui sillonnent la France, soit en train, soit en camion. Hein. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit par exemple de l'uranium fabriqué à Malvézy, enfin ce qu'on appelle le yellow cake dans le jargon, à Malvézy dans la Drôme, transporté ensuite à Tricastin, transporté à Romans-sur-Isère, etc. Ensuite transporté dans les centrales nucléaires pour alimenter les centrales nucléaires. Là, je parle du combustible neuf, hein, uranium-235, uranium-238, et MOX aussi, MOX qui est un mélange avec du plutonium. On a après les combustibles usagés hein, qui sortent okay. des centrales qui vont vers La Hague où certains aussi autres produits vont aller vers les centres de stockage de l'Aube, là, près de Troyes. Okay. Voilà. Et donc ces colis présentent des vrais dangers puisqu'ils traversent les villes, ils traversent les villages en camion ou en train. Mmh. De jour, de nuit, enfin souvent de nuit, sans que les populations soient informées. Donc là, il y a un deuxième type de danger dont peu de gens sont conscients et qui est pourtant réel et grave, quoi.
Est-ce que ces transports sont encadrés par la police ou...
Alors, les trains ne sont pas encadrés par la police. Ouais. Hein. C'est vrai que ce sont des conteneurs, bunkérisés, mais qui ne peuvent pas résister à tout. Hein. Ils peuvent résister à un incendie, mais pas un incendie qui va durer 2 heures, par exemple. Ouais. Hein. Qui peuvent résister à des chutes, mais pas à des chutes de 10 étages. Hein. Donc, là, il y a vraiment... Alors, certains sont encadrés. C'est par exemple le cas du plutonium qui repart de La Hague pour aller à Marcoule. Alors La Hague, vous voyez, c'est près de Cherbourg, dans la Manche. Et Marcoule, c'est dans la vallée du Rhône. Donc à chaque fois, c'est de l'ordre de 900
kilomètres, encadré dans, sur un camion, encadré par la gendarmerie. Mais pour autant, les risques sont réels, parce que de toute façon, ce camion emprunte les routes et les autoroutes. C'est pas parce qu'il y a un véhicule de gendarmerie devant et un véhicule derrière qu'on risque l'accident, quoi. Ou, chose tout à fait plausible également, l'attaque par des terroristes. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans un autre type de risque. Donc voilà, je ne m'attends pas plus sur le problème des transports, du danger lié au transport, mais c'est un vrai souci. Après, le troisième grand danger, quand on parle de danger du nucléaire, on a surtout ça en tête à juste titre, c'est le risque d'accident.
Oui.
Alors, on n'y croyait pas, nos grands pontes du lobby nucléaire n'y croyaient pas, mais il y a eu quand même Tchernobyl. Après, là où le lobby était quand même un petit peu plus gêné aux entournures, je dirais, c'est qu'on a eu Fukushima, oui. Parce que les Japonais sont quand même des gens avec une réputation assez sérieuse quand même d'un point de vue technique. Et puis on a vu avant, on avait eu Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Et puis plus récemment, on a eu Forsmark en Suède en 2006. Là, c'est ce que je vais appeler les presque accidents. Alors malheureusement, des presque accidents, on en a beaucoup. Et beaucoup de Loir-et-Chériens ignorent que les presque accidents survenus en France, il y en a eu deux à Saint-Laurent.
D'accord.
Il y en a eu trois en France, enfin on peut dire au moins trois. Deux à Saint-Laurent, 1969-1980, et un au Blayais, en Gironde, en 1999. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en 1969-1980, sur l'ancienne centrale A1 et sur A2, on a eu les combustibles uranium qui se sont bloqués, et on a eu un échauffement du cœur qui a conduit à la production, enfin, surtout en 1980, de plutonium. Donc, ça a été vraiment grave. On a eu aussi, j'allais l'oublier, un presque accident. Je ne veux pas dire incident, parce que EDF parle d'incident, mais c'est quand même plus qu'un incident. C'est un presque accident. En janvier 1987, où la Loire a gelé, a été embâclée, pour reprendre le terme local, et on n'arrivait plus à refroidir la centrale nucléaire.
D'accord.
Et donc, on est passé à deux doigts d'une fusion du cœur. Il a fallu que les artificiers viennent à toute vitesse pour faire exploser la glace et réalimenter en eau froide, en eau, la centrale nucléaire.
On a l'impression un petit peu que les autorités attendent un vrai accident pour le coup, pour réagir et faire quelque chose en fait.
Exactement.
Et c'est, alors, suite à Fukushima, vous avez peut-être entendu parler des mesures post-Fukushima que EDF doit mettre en place, mais que EDF tarde à mettre en place, parce que là on se bute à un problème aussi financier. Le EDF n'a plus d'argent. EDF a 67 milliards de dettes. Hein. Et donc, les mesures post-Fukushima tardent à être mises en place. Alors, elles sont diverses et variées. Hein. Il y a, par exemple, la FARN, la force d'action rapide nucléaire. Il y a les sources d'eau ultimes, créer des nouveaux forages ou des nouvelles prises d'eau pour pouvoir réalimenter la centrale en cas de perte d'eau de la première source. Il y a la mise en place des DUS, diesel ultime secours. Actuellement, il n'y a qu'un Saint-Laurent, d'ailleurs, curieusement, il n'y a qu'un Saint-Laurent que le DUS est opérationnel. Toutes les autres centrales n'ont toujours pas leur DUS opérationnel, alors qu'il devait être mis en place avant 2018, etc. etc. Vous voyez. Alors, et puis, par ailleurs, certes, EDF peut mettre en place, va mettre en place différents disons, palliatif suite à l'accident de Fukushima, pour essayer d'éviter l'accident. Mais pour autant, les cuves, par exemple, hein, je cite un exemple très concret, les cuves de nos centrales nucléaires, sont fissurées, certaines sont fissurées parce qu'il y a eu des problèmes de forge à Creusot-Loire.
Des micro-fissures
qui risquent de s'aggraver. Et puis, toutes celles qui ont plus de 40 ans, qui arrivent aux 40 ans, elles ont donc été bombardées par des rayonnements neutroniques pendant des dizaines d'années, pendant 40 ans, et les conséquences sur les aciers, on les connaît mal. Tout ça pour dire que les cuves risquent de se fissurer, et une cuve qui se fissure, c'est pas très bon, quoi.
Mais c'est une sorte de roulette russe, en fait.
Voilà. Je vais peut-être arrêter là pour l'instant parce que j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur les dangers, mais...
Moi, je pense qu'on en a parlé en off tout à l'heure, mais les dangers pour la démocratie, je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs, parce que moi, ça ne me parlait pas du tout. Vous m'avez expliqué, voilà. Et je trouve ça intéressant.
Bon, c'est une réflexion globale, quoi, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, mais quelque part, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que, en fait... Tout repose sur le fait de posséder au début une bombe atomique. Et une bombe atomique, c'était une rupture dans l'histoire, à savoir qu'on a accepté d'avoir une arme de destruction massive. Ça veut dire qu'on s'asseyait sur toutes les conventions internationales, notamment les conventions de Genève, etc., veillant à ce qu'on protège au maximum les populations civiles, les femmes, les enfants, etc. Donc ça a été un engagement absolument extraordinaire. Et donc, quelque part... Il y a une dimension un peu inhumaine de la part des gens qui étaient derrière, quel que soit leur motif. Par rapport à l'homme, et on a vu à l'instant dans l'exposé, de toute façon qu'il y avait un impact sur le vivant, que ce soit l'homme ou que ce soit la nature d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui est très, très important, qui est insidieux, etc. Mais ça, on l'étouffe, on ne le dit pas non plus. Donc quelque part, ça interroge. On a donc développé le nucléaire civil. Et il n'y a pas eu de consultation de la population. On ne l'a pas questionné sur ce choix énergétique. Ça a été imposé.
Oui.
Et quant à la dangerosité, etc., motus et bouche cousue, secret défense au début. Et petit à petit, avec les développements des communications, etc., et puis quand même des événements comme ceux que a cité Jean, on ne pouvait pas tout taire non plus. Il fallait, force oblige, il fallait qu'on commence à reconnaître une certaine dangerosité de la radioactivité. Quand bien même, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était connue depuis le début. Et là, on arrive à un seuil de nouveau dans le développement de cette industrie. Soit on arrête pour basculer sur les énergies renouvelables, ce qui demande un effort, etc., mais qui n'est pas nécessairement compatible avec le renouvellement du nucléaire qui bouffe énormément d'argent, parce que c'est des gouffres financiers. C'est aussi bête que ça. Et là, il n'y a toujours pas de consultation. On serait en droit. Les gens descendent dans la rue parce qu'on ne les consulte pas. Mmh. On a toutes les consultations qui se font à droite, à gauche. Là, on fait du tas de l'esbrouf, du cinéma tout autour. Mais sur le nucléaire, si, il y a une consultation qui va être faite. Mais sur les déchets, le stockage des déchets. D'accord. Qui en a entendu parler ? Vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Non. Et qui y va ? C'est 2-3 personnes qui sont intéressées, qui vont sur le net et qui vont répondre à un questionnaire. Quant au résultat à l'exploitation de ce questionnaire, on peut se poser des questions. En tout cas, ce sera 2 pelés, 3 tondus, pour parler vulgairement, qui seront consultés. Mais c'est vrai, c'est ça.
Non, mais...
Voilà. Mais ce n'est pas une consultation sur quel choix énergétique on veut pour demain. Or, un des sujets actuellement, c'est la transition énergétique, c'est la transition écologique. autre chose, dernier élément aussi, sur cette espèce de négation, on pourrait presque parler d'inhumanité. Lors de la consultation qu'il y a eu à Saint-Laurent, organisée par la CLI, on nous a présenté un beau document fait par des agences comme l'IRSN, EDF, etc., sur le nucléaire, sur la centrale, sur la poursuite de cette industrie. Et là, on nous a vendu l'EPR, c'est une méga centrale, le réacteur dont on parlait tout à l'heure, et dans un beau document en papier glacé qu'on nous a donné, on trouve l'homme, les riverains, dans un chapitre qui arrive à la fin, c'est 8 pages, et c'est traité dans les inconvénients. Donc on est bien sur quelque chose, et ça depuis le début, qui est fait par des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leur technologie ou qui veulent le faire croire, et qui vont favoriser leur intérêt, que ce soit un intérêt, je dirais, politique, financier ou technologique, avant toute chose. C'est la première considération. Et le reste, la sécurité de la population, il s'assoit dessus, en fait. Oui. Après ça, c'est du blabla. Si vraiment il n'y avait aucun danger sur le nucléaire, pourquoi n'y aurait-il pas eu systématiquement autour de l'ensemble de nos installations, de nos dépôts, de nos stocks, des études épidémiologiques qui prennent ensemble, questionnent l'ensemble, on compte l'ensemble des pathologies, pas uniquement 2-3 cancers, comme mais également l'ensemble des pathologies possibles liées à la radioactivité et connues comme pouvant être liées à la radioactivité. Pourquoi ?
Voilà, c'était le In Extremis de la semaine. Donc je remercie encore Sortir du Nucléaire 41 et surtout Jean Colly et Didier Narbé-Bourou. Désolé si j'écorche la prononciation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours sur les In Extremis, ça nous intéresse, et même à nous proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser pour les mois à venir. En attendant, on va vous souhaiter avec Charles un très bon week-end et merci d'avoir participé cette semaine avec moi et de m'avoir aidé pour les Qu'est-ce qui se passe de la semaine.
Avec plaisir. Puis c'est quand vous voulez, hein. Si vous avez un jour besoin d'un coup de main, faut pas hésiter à m'appeler.
On te retrouvera alors dans un Qu'est-ce qui se passe avant la fin de notre service civique. On va vous laisser en musique avec un groupe que j'ai choisi, que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, que j'ai redécouvert là récemment. Ça s'appelle Skip and Die et le titre s'appelle La Cumbia Dictadura. C'est un groupe sud-africain et néerlandais. On vous laisse écouter et on vous souhaite un bon week-end.
gringo.